Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Jeudi 30 septembre. Bonne journée. Bienvenue au 98.5. Alors, ce matin, un ciel qui est assez nuageux, mais quand même, on a 7 degrés, pas très chaud. Soleil-nuages en alternance, c'est ce qu'on prévoit, avec un faible risque d'averse au cours de la journée. Le maximum, donc, 17 degrés. La nuit prochaine, on parle de 8 degrés, possiblement de la pluie. Et demain, 1er octobre, vendredi, c'est une belle journée, c'est du temps ensoleillé, autour de 19. Pour l'instant, on prévoit un week-end assez gris. Surtout samedi, 13 degrés, de la pluie, la probabilité est assez élevée. Et dimanche, on prévoit aussi quelques averses avec un maximum autour de 15 degrés. Donc, aujourd'hui, c'est une journée importante. C'est un congé, d'une part, mais un congé pour se remémorer, évidemment, le drame vécu par les Autochtones au Canada. Alors, cette journée où je pense qu'il faut réfléchir, parce qu'il reste pas mal de choses à faire quand vous regardez, évidemment, le bilan des différentes recommandations qui ont été faites, cette journée nationale de la vérité et de la réconciliation, nous amène à regarder ça d'un peu plus près. Et au-delà des cérémonies officielles, je pense à la sortie hier de M. Trudeau, faut regarder les faits. Puis ce matin, dans la presse, on s'est tourné vers les spécialistes qui doivent suivre les recommandations de la commission Vient, qui avait étudié les relations entre les Autochtones et certains services publics. Il y avait eu beaucoup de recommandations. Le gouvernement Legault prétend en fait toujours, que ça avance très bien, puis que ça avance quand même assez vite, et tout ça. Dans les faits, ce sont des mesures, et je cite donc le comité de suivi, là, des mesures anecdotiques qui ne répondent que partiellement aux recommandations et des avancées très timides en matière d'autonomie des Premières Nations. Ce qu'on dit du gouvernement Legault, c'est qu'il répond quand il y a une crise, quand ça lui arrive en pleine face, il réagit, mais il n'est pas dans un mode de régler des problèmes plus structurels sur des périodes, je dirais, plus importantes, et avec un rayonnement aussi qui n'est pas juste une anecdote. C'est quand même assez sévère. Le ministre Yann Lafrenière a présenté des chiffres. Le débat, c'est pas tellement combien de recommandations avez-vous suivies, puis vous travaillez sur combien de recommandations. Ce que le comité dit, c'est que c'est mineur, que c'est bien, mais que c'est pas très convaincant. Un. Deux, le débat à l'Assemblée nationale sur la mort de Joyce Echaquan, le principe de Joyce, entre vous et moi, là, c'est pas très, très édifiant. On n'a pas été capable de s'élever au-dessus de la mêlée puis d'avoir une discussion. Puis je comprends que le racisme systémique, cette notion-là, achale le premier ministre, ça le fatigue. Il veut pas le reconnaître parce qu'il pense que ça va être interprété comme étant un aveu que les Québécois sont racistes. Il reconnaît qu'il y a des gens racistes, il reconnaît qu'il y a des pratiques qui peuvent être racistes. Mais quand vous regardez, par exemple, le pourcentage de gens dans le réseau de la santé qui ont suivi une formation par rapport aux échanges puis la façon de traiter les personnes autochtones, c'est une fraction ridicule. Même le ministre Christian Dubé trouvait que ça n'avait pas d'allure. Alors, tu sais, tu sens ce malaise-là, c'est comme une patate chaude. Et ça arrive au moment où on revient encore sur cette horreur sans nom, c'est-à-dire l'histoire des pensionnats. Il y en a combien d'enfants qui ont été retirés? Les estimés varient. Il y en a combien d'enfants qui sont morts? Ils sont morts dans quelles circonstances? À quel endroit les a-t-on enterrés? Est-ce qu'on a fait l'inventaire de ça? Et quel est le niveau de responsabilité des gens impliqués? Je comprends que l'Assemblée des évêques du Canada dit « on va offrir 30 millions » après avoir présenté des excuses formelles. Personnellement, un peu de misère avec leur discours, là. On reconnaît, mais en même temps, on met des bémols. On admet que c'est une horreur, que ce sont des enfants qui ont été retirés de leur famille, qui sont jamais retournés vers leur famille, qui sont morts dans des circonstances nébuleuses. Puis là, on tente de protéger en disant « Ouais, mais ce sont des religieux, pas des prêtres. » On fait des nuances. Puis après ça, on dit « Ouais, mais il y avait du bon monde pareil là-dedans. » Tu sais, moi, cette espèce de rhétorique, je veux bien de la misère avec ça. Alors, on va en reparler ce matin, notamment avec Michel Audette. Parlons des vaccins. On n'est pas étonné. En fait, ce matin, ce sont peut-être des rappels ou des évidences. L'Institut national de santé publique du Québec dit que les vaccins contre la COVID sont efficaces à 97% pour empêcher le décès et 92% contre les hospitalisations. Bien comprendre que si vous êtes correctement vacciné, la probabilité d'être malade et de vous retrouver à l'hôpital fond. Et on le sait, ceux qui sont à l'hôpital, pour la plupart, ne sont pas vaccinés. Et on voit dans les bilans que ce sont des jeunes, de plus en plus, qui occupent les lits d'hôpitaux. Alors, c'est une excellente protection. AstraZeneca serait un peu moins bon, semble-t-il, notamment contre les infections. Mais il semble que la stratégie du gouvernement a été efficace là-dessus quand on a augmenté les intervalles. Rappelez-vous que ça allait contre ce que le fabricant disait, mais ça tend à démontrer que ce délai entre la première et la deuxième dose a permis de rendre le vaccin probablement encore plus efficace. Alors ça, c'est la première chose. Il y a un témoignage aussi dans la presse ce matin. Un petit gars de 13 ans qui est aux prises avec une fatigue post-COVID. En tout cas, ça présente pas mal de similitudes avec la COVID longue. Ça fait 8 mois que cet ado de 13 ans, Thomas, est aux prises avec des maux de tête. C'est pas encore tout à fait clair. Mais on se rend compte que des adolescents peuvent, même si c'est toujours moins grave, traîner des séquelles pendant une assez longue période de temps. Le Collège des médecins aussi dit à ses membres, allez vous faire vacciner. Un médecin non vacciné, ben oui, il y en a. Taux de vaccination serait de 97%. Et les médecins seront suspendus s'ils ne sont pas vaccinés au 15 octobre, doublement. Et ils pourront pas non plus offrir de téléconsultation, de faire du suivi de résultats d'examen ou de tests de laboratoire. Et en plus de ça, ils devront s'assurer que les patients soient pris en charge par un autre médecin à partir du moment de la suspension. Et le collège rappelle que c'est une obligation déontologique, une obligation sociale d'être protégé, puis en même temps, donc, de protéger les autres. Puis je peux ajouter là-dessus ce qu'il y a dans le Devoir ce matin, alors que on le sait qu'à la Cité de la Santé, il y a eu des jeunes dans la vingtaine, dans la trentaine, qui sont décédés. Et il y a eu différentes vagues, on le sait, puis différents types de patients. Au début, des gens plus âgés, puis maintenant, des gens plus jeunes. Et ce qui est fantastique, c'est de voir des médecins qui témoignent, des employés de la Cité de la Santé, qui disent, je cite, « Certains ont encore l'énergie de contester, même rendus aux soins intensifs. » Ils persistent à nier leur état, à penser qu'on exagère, à dire que la COVID, ce n'est qu'une invention. Ils sont en train de se faire intuber, ils sont aux soins intensifs, puis ils considèrent que c'est une invention, que c'est un complot, puis qu'il n'y a rien là. Ils sont en train de mourir, mais ça, c'est une pareille avec le personnel soignant. Puis mettez-vous à la place des gens qui soignent, là. T'sais, on a beau être ouvert, pis on a beau dire oui, faut pas faire de discrimination. Mais comme dit mon ami Alain, pour les gens qui ont fumé, par exemple, parce que c'est toujours l'argument que j'entends des complotistes, est-ce qu'on va soigner les gens qui ont fumé? Est-ce qu'on va soigner, bon, ceux qui n'ont pas une bonne hygiène de vie? Si on vous propose un vaccin qui, à 97%, va faire en sorte que vous n'aurez pas le cancer, pense que vous allez le prendre. Alors, quand tu vois des gens qui refusent d'être vaccinés, qui occupent des lits dans les hôpitaux, qui monopolisent des ressources pendant que d'autres patients attendent, on le voit là en Alberta, des opérations de délestage dans le réseau de la santé, des opérations importantes qui sont malheureusement repoussées. Mais bon, et puis aujourd'hui, pour boucler tout ça, il y aura l'annonce de certaines mesures d'allègement sanitaire, et on pense que ça va viser les grands rassemblements. Grosso modo, ça veut dire plus de gens au cinéma, plus de gens dans les salles de spectacle et plus de gens dans les amphithéâtres, mais toujours avec la même condition, c'est-à-dire la double vaccination, le fameux passeport vaccinal. C'est sûr que le meurtre, cet autre féminicide à Saint-Donat cette fois, soulève énormément de réactions, et je m'en rends compte dans vos courriels. À chaque fois qu'il y a un meurtre de cette nature, des femmes qui ont vécu ou qui vivent actuellement la violence conjugale sont directement touchées. Ça ramène des souvenirs. Il y a notamment une auditrice qui m'a écrit, Émilie, donnez son prénom seulement, un long texte que je ne pourrais pas vous lire ce matin, mais qui est extrêmement touchant, où elle dit, je commence comme ça, je suis un visage de nombreuses victimes de la violence conjugale, je commence une thérapie de groupe après avoir consulté au privé, et enfin mis des mots à ce que j'ai vécu pendant mon union de 20 ans et la violence post-séparation depuis 4 ans. Je suis une victime de violence conjugale. Tous les types de violences, j'ai coché la liste, je les ai vécues et je les vis encore, même loin de mon agresseur, car nous sommes aux yeux de la loi coparents. Je vois les manchettes de féminicides et je me consterne de l'impuissance du système légal criminel et celui du droit de la famille pour changer. Avant, plus de drames de cette nature. Situation catastrophique que la pandémie n'a fait qu'exacerber. J'ai voulu appeler à l'aide avec un témoignage sur ma plateforme sociale en groupe privé. Mon ex-conjoint a voulu me museler avec une menace de poursuite pour diffamation. Et ça continue, et elle poursuit, évidemment, sur le phénomène global. Elle parle de la noirceur, du gouffre, du poison en bouche qui est insupportable. La victime doit encore tenir devant l'ennemi qui lui sourit. Il a tant de fois réussi sa mission de détruire la rose en elle. Elle se voit laide à travers le miroir de ses yeux. Extrême virulence et cette violence, cycle de la survie de cette misogynie. Ce sont que quelques extraits et d'autres témoignages comme ça. Puis après, on se dit, mais est-ce qu'on aurait pu prévenir ce qui est arrivé? Est-ce qu'on devrait, comme recommandent certains intervenants dans des refuges, faire en sorte qu'il y ait des évaluations plus strictes quand il y a des épisodes comme ça de violence conjugale? Dans les autres nouvelles, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde municipal en passant. Ça joue dur. Bon, la bataille Montréal de Nicodère, Valérie Plante, puis bon, il y a d'autres candidats, c'est sûr, là, mais le ton est quand même un petit peu à l'affrontement. Et deux visions qui s'affrontent. Mais je regarde ce matin, Saint-Bruno, vous avez un texte de Isabelle Haché. Puis les gens nous ont écrit à Saint-Bruno avec des trolls, là, des faux comptes Facebook, des histoires de pancartes électorales déchirées. C'est un exemple. Saint-Hubert, le journal de Montréal, nous parle de trois élus en bataille avec l'hôtel de ville. Année d'élection, là. Donc, la ville qui a décidé de prendre des recours devant les tribunaux contre trois élus de l'arrondissement Saint-Hubert, Jacques Lemire, Jean-François Boivin et Jacques Poitras, pour faire déclarer ces trois conseillers inhabiles à siéger. Puis c'est une chicane qui porte autour d'un règlement qui interdit les feux extérieurs au bois sur le territoire de Longueuil. Eux, les trois, là, sont en désaccord avec le règlement, puis contestent en cours la validité du règlement. Fait que là, la ville se revient de bord, puis elle dit, moi aussi, je vais en cours, puis je vais vous sortir de là. Je comprends qu'il y a des enjeux, là, puis que, mais c'est l'argent des taxes, en passant, là, qu'on dépense dans toute cette histoire-là. Puis Saint-Bruno, Longueuil, deux exemples seulement, racontent des histoires aussi du côté de Laval. Le Journal de Montréal nous raconte ce matin, il faut être prudent, l'histoire d'Alexandre Soulière, qui a joué un rôle important au Parti libéral, notamment au bureau de l'ancien premier ministre Jean Charest, et qui s'est retrouvé comme directeur général du regroupement d'organismes jeunesse. Et il fait l'objet d'allégations de malversations financières assez graves. Et on parle de sommes importantes, là, de centaines de milliers de dollars. Donc, qui était à la tête de ce réseau de Carrefour Jeunesse Emploi au Québec. depuis 2011 et on l'accuse, entre autres, d'avoir créé des fausses factures, qu'il se faisait rembourser des dépenses personnelles qui passaient sur la carte de crédit de l'organisme. Il aurait créé également des compagnies. Alors, il s'est poussé. Il n'est pas accusé. Il y a une enquête, donc il y a des allégations qui ont été déposées le concernant. Nouvelle importante hier, c'est tombé Britney Spears qui peut enfin briser les chaînes que son père lui avait imposées. C'est la première fois depuis 2008 que Britney Spears, qui a 39 ans, n'est pas obligée de subir les décisions de son père, de se rapporter à son père, de faire tout ce que son père souhaitait. Et c'est un premier volet du jugement, il y en aura un deuxième. La fortune est évaluée à 60 millions. Et son avocat a dit hier, et je cite, « Le père, il a même dit cet homme, n'a plus de place dans la vie de Britney Spears et elle peut maintenant prendre sa destinée en main. » Je vous rappelle que ses amis sont également inquiets parce qu'elle est instable, elle est perturbée, mais entre ça et de ne pas pouvoir rien décider dans ta vie, incluant des détails de ta vie intime et de ta vie personnelle, ça n'avait pas de bon sens. Et le père lui-même est en train de se tasser. Alors, donc, la décision qui est tombée. Nicolas Sarkozy, lui, coupable, 1 an de prison, mais attention, coupable dans une affaire de financement électoral, donc de plafond qui a été défoncé. Je pense que c'est 22 millions d'euros lors de la campagne de 2012. Donc, il ira en appel, ça c'est sûr. Puis deuxièmement, de ce qu'on croit comprendre, là, c'est une peine à purger à domicile. Donc c'est 1 an, surveillance électronique. Pense pas que l'ancien président français va se retrouver, comme on dit, dans une cellule, là. Mais quand même, il a été reconnu coupable de participation à cette fraude importante.
L'essentiel de Paul Arcand. L'essentiel de Paul Arcand.
Aujourd'hui, 30 septembre, c'est la toute première journée nationale de la vérité et de la réconciliation au Canada. Une journée qui est un congé férié aussi au niveau fédéral, qui vise à se rappeler les douleurs, les souffrances qu'ont endurées les peuples autochtones au fil de l'histoire. On pense à ces enfants disparus, ces enfants qui se sont retrouvés dans des pensionnats, des familles qui ont été divisées. Et aussi, on peut penser également à ces femmes et ces filles autochtones qui sont disparues. Aujourd'hui, dans la presse, on nous dit que le comité de suivi du rapport Vient qui avait été créé pour justement voir les relations entre les Autochtones et certains services publics. Bref, qu'il reste énormément de choses à faire et que, je vais citer l'article de ce matin, des mesures anecdotiques qui ne répondent que partiellement aux recommandations et des avancées très timides en matière d'autonomie des Premières Nations. Bref, c'est pas tant le nombre de recommandations sur lesquelles on travaille qui est important, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est substantiel? Je fais le point sur cette journée avec Michèle Audette, qui est aujourd'hui sénatrice autochtone et qui a été aussi commissaire à l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées. Madame Audette, bonjour.
Oui, à vous, Monsieur Arcand.
Qu'est-ce que ça représente, cette journée, pour vous d'abord?
Beaucoup, beaucoup de choses. Ça représente un pas important pour ma mère, ma belle-mère et toute ma famille et nous, et qui ont été obligés d'aller dans les pensionnats. Ça représente aussi à mes 5 enfants, puis à tous nos enfants, M. Arcand, à travers le Canada, puis au Québec, que notre résilience, elle est belle, elle est forte, et on se tient debout aujourd'hui pour partager un côté douloureux, comme vous l'avez dit, mais un côté aussi pour vous dire, il y a du bon monde, puis on a envie de faire un nouveau chapitre avec vous.
Mais pour faire le nouveau chapitre, il nous manque quand même beaucoup de choses, non? Sur le passé, sur l'histoire?
Définitivement. Je vais continuer à dire, puis avec mes nouveaux mocassins au Sénat, quand je vais comprendre comment tout ça fonctionne, comment faire en sorte que au Québec, à titre d'exemple, on n'a pas d'université par et pour les premiers peuples qui serait ouverte sur le monde, qui accueillerait la société québécoise pour dire venez apprendre ce qui s'était passé, venez apprendre la science autochtone, venez apprendre comment on a accueilli tout ce monde-là et qu'aujourd'hui, comment on va arrimer tout ça pour travailler puis faire des choses. On n'est pas obligé de s'entendre sur tout, mais au moins se connaître, ça, ce serait déjà un bon départ. Puis ça me fait de la peine de vous dire que mes enfants et nous, au MDAP, au primaire et au secondaire, apprennent pas grand-chose sur leur propre histoire.
Parlons du scandale, et le mot est faible même, des pensionnats. Encore là, on découvre, on est, je dirais, dans les premières étapes sur le nombre de ces cimetières, le nombre d'enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux bien que l'Église de l'Assemblée des évêques présente des excuses formelles puis promet de financer des programmes à la hauteur de 30 millions. Mais vous trouvez pas que ça traîne un peu, pour tout dire, là?
Ça traîne, ça fait longtemps. Je pourrais être enragée ce matin avec vous, pas envers vous, mais sur vos ondes. Mais je dois respirer beaucoup. Puis ça, je dois le faire à chaque jour de l'année, là, et depuis très longtemps, parce qu'on va l'avoir dit, on va l'avoir écrit, on va l'avoir documenté. Il va y avoir eu des commissions d'enquête. Mais là, Joyce va nous faire réagir par ses images. Ensuite, les images, grâce à la technologie, et les preuves qui ont été faites en mai dernier sur la découverte des petits êtres lumière et que là, les chiffres s'additionnent, je pense qu'on peut plus prétendre que c'était quelque chose d'isolé ou dans une courte période, mais que c'est l'ensemble des territoires où les nations étaient, et elles le sont encore aujourd'hui, ont été touchées par ça. Donc ça, ces preuves-là nous font mal. À partir de maintenant, bon, il faut reconstruire quelque chose et le faire ensemble.
Et comment on fait ça?
L'éducation populaire, la pédagogie, ce que vous faites en ce moment, d'avoir peut-être des tribunes à chaque mois avec une personnalité autochtone ou faire promouvoir quelque chose au sein d'une nation. Si vous avez ce pouvoir-là et cette magie-là. Donc, le monde en politique, en médias ou en éducation, et peu importe le milieu, aurait une capacité de faire un petit ou un grand pas.
On parle ici, évidemment, En fait, le nom de la journée l'indique bien, là, de vérité et de réconciliation. Mais en même temps, quand je regarde l'ensemble des problèmes réels, contemporains, pas seulement que l'histoire, mais des problèmes d'éloignement, des problèmes d'eau potable, des problèmes de survie qui sont toujours là, qui sont dans le décor. Puis je peux peut-être traduire un peu ce que mes auditeurs se disent, mais par quel bout on prend ça?
Il n'y a pas un bout. Puis il faut pas penser, faut pas se décourager. Ça veut dire que, comme vous, M. Arcan, bon, il y a un gouvernement fédéral, il y a un gouvernement provincial, il y a un gouvernement municipal. Donc, il y a plein de gens qui travaillent pour votre mieux-être et votre bien-être. La question autochtone, c'est deux ministres. Ben là, je ne sais pas comment on va nommer ça au fédéral à cette heure. Il y a un nouveau gouvernement. Bon, c'est deux ministres qui touchent et traitent toute la question des Autochtones. Donc, ça, pour moi, ça c'est archaïque. Comment on commence? Bon, mais si moi, je suis une passionnée de l'environnement, je vous dis ça comme un exemple, là. Bon, ben c'est là-dessus qu'on doit travailler ensemble pour trouver un équilibre. D'autres, ça va être la santé publique ou la santé mentale et ainsi de suite. Chaque personne, de par son expertise ou son savoir, a une responsabilité et de notre côté aussi, de s'ouvrir à vous et de dire, bon, ben il y a des crises de logement, il y a un manque d'eau potable dans des communautés, le taux de suicide est alarmant, et ainsi de suite. Donc, faut arrimer nos forces avec les forces vives québécoises et canadiennes et de faire confiance à nos forces vives aussi, à nous, à notre savoir, pour vous dire ben, il y a peut-être des solutions beaucoup plus efficaces que des programmes mur à mur, là.
Dans les dernières années, puis je pense à la période où vous avez siégé à la commission d'enquête, là, qu'est-ce qui vous a le plus troublé? Évidemment, vous saviez des choses, vous étiez au courant de plusieurs événements, mais j'imagine qu'il y a eu des moments plus durs ou des moments où vous vous êtes dit, je pouvais même pas m'imaginer que c'était arrivé.
J'essaie de rester calme parce que l'émotion monte. Là. De voir qu'on peut être à Iqaluit ou à Whitehorse ou à Montréal ou à Joliette ou à Malutenam, que cette violence coloniale qu'on pensait dans un passé, on la vit à travers tous nos cinq sens. Puis ça m'a... j'ai encore mal. Je vais être franche avec vous, là. Donc, c'est un processus de guérison personnelle, mais aussi collectif, qui est pas évident. De voir comment, des fois, des aberrations parce qu'elle était une femme autochtone, on va la traiter complètement différemment versus la femme à côté dans la civière ou dans la cellule ou dans la rue. Puis ça, on en a eu trop d'exemples comme ça, puis je me disais, oh non, c'est grave, c'est partout. Mais c'est méconnu.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager vos réflexions avec nous ce matin, Mme Audette.
Bonne journée, M. Arcan.
Bonne journée à vous. Michèle Audette est sénatrice et ex-commissaire à l'enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées. Je rappelle qu'au cours de la journée, il y aura plusieurs événements, notamment à Montréal, il y a des bibliothèques qui vont mettre de l'avant des œuvres d'auteurs autochtones, la biosphère, le stade olympique et le pont Samuel de Champlain, qui seront illuminés de la couleur orange, qui est la couleur de cette journée.
L'essentiel de Paul Arcan.
Bon, c'est cette première journée nationale, et en même temps, c'est un premier congé férié de cette nature. Et là, beaucoup de gens se demandent qui travaille. Est-ce que si je travaille, je suis payé en temps supplémentaire? C'est un congé clairement férié là, pour les employés du gouvernement fédéral, pour les entreprises qui relèvent du fédéral. Mais je regarde le magasin Simons, c'est congé, mais d'autres magasins sont ouverts. On fait le point avec Maître Claude Gravel, qui est avocat spécialiste en droit du travail. Maître Gravel, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
Alors, expliquez-moi comment s'applique cette journée de congé aujourd'hui.
En fait, disons que cette journée de congé-là a été adoptée un peu dans je dirais pas dans la confusion, mais on était dans le contexte de la COVID, les élections, alors peut-être que la promotion puis la mise en œuvre du congé laisse à désirer quant à la manière dont il a été communiqué. Ceci étant, au Québec, il faut comprendre là, qu'il y a deux régimes qui visent la question des normes du travail. Donc, on a le Code canadien pour les entreprises, comme vous le soulignez, de juridiction fédérale. On parle ici des entreprises de transport interprovincial, télécommunications, dont vous faites partie, les banques, etc. Et tout ce qui n'est pas de juridiction fédérale tombe sous le chapeau, si vous me permettez, de la loi sur les normes du travail. Donc, pour concrètement, donc, cette journée de la réconciliation appartient aux entreprises de juridiction fédérale. Par contre, des entreprises comme Simons ont décidé de suivre le pas et d'accorder à leurs employés, dis-je, un congé, même s'ils ne sont pas tenus de par la loi de le faire. Concrètement, pour les entreprises de juridiction fédérale, en fait, elles avaient deux choix. Donc, accorder le congé. Alors, les banques à charte ont pris ce chemin-là. Donc, aujourd'hui, les banques sont fermées. Poste Canada n'offre pas de service. D'autres entreprises de juridiction fédérale ont aussi le privilège de faire travailler leurs employés. Auquel cas, pour ces employés-là, dans le premier groupe, on comprend que le congé est rémunéré. Dans le deuxième groupe, donc, ceux et celles qui ont à travailler aujourd'hui vont avoir droit à une indemnité qui correspond à une journée de travail pour la journée du congé férié. Et les heures travaillées aujourd'hui seront rémunérées à temps et demi.
Ouais, OK, mais je comprends. C'est-à-dire que je sais pas moi, le propriétaire d'un magasin, puis j'oublie Simon, n'a pas l'obligation de donner congé. Il n'y a aucun employeur québécois, là, à moins d'être sous juridiction fédérale, qui est obligé de donner congé à ses employés aujourd'hui.
Vous avez parfaitement raison.
Et ça devient un choix. Et ça peut évoluer. Cette année, c'est la première journée. Puis l'an prochain, on verra comment ça peut changer.
Vous vous souviendrez qu'au cours du mois de mai ou du mois de juin dernier, le premier ministre avait quand même commenté un peu l'adoption de cette journée-là. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, il soulignait qu'au Québec, il estimait que nous bénéficions déjà d'un bon nombre de congés fériés.
Je vous dirais que c'est le message qu'on reçoit des ressources humaines ici aussi. C'est pour ça qu'on est là.
C'est une question d'opinion, mais on comprend qu'il peut y avoir toutes sortes de points de vue à cet égard-là.
Merci, Maître Gravel. Bonne journée.
Merci à
vous. Au revoir. Maître Claude Gravel, avocat spécialiste en droit du travail. Alors, je pense que c'est assez clair. Puis, c'est comme le jour du souvenir aussi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si on résume un peu, là, les banques, services postales, les télécoms, des compagnies qui font des affaires interprovinciales, la loi fédérale, le congé fédéral existe. Et après ça, pour les autres, ben, c'est à la discrétion de l'employeur.
L'essentiel de Paul Arcan. L'essentiel de Paul Arcan.
COVID. certain nombre de choses à dire. D'abord, il y aura le point de presse à 13h et on va annoncer, entre autres, les assouplissements concernant les grands événements. Puis on peut penser au cinéma, c'est-à-dire qu'il y aura plus de gens qui seront admis, par exemple, au Centre Bell lors de la reprise des activités. On nous dit que ça va se faire par étapes, là, mais on va ajouter, toujours avec le passeport vaccinal, des sièges, donc la foule sera plus importante. Deuxième bonne nouvelle, c'est l'étude de l'Institut national de santé publique qui montre que les vaccins sont efficaces. 97 % contre les décès, puis 92 % contre les hospitalisations. Et ce qu'on voit dans les tableaux du ministère de la Santé, ben ça se confirme. Donc, quand vous êtes doublement vacciné, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas susceptible d'avoir la COVID, mais ça va faire pas mal moins de dommages que chez les non-vaccinés. Puis on le voit, les gens qui sont hospitalisés majoritairement et aux soins intensifs, ce sont des gens qui n'ont pas été vaccinés. Parenthèse là-dessus, vous avez des professionnels à la Cité de la Santé qui racontent des cas dans cette quatrième vague de gens qui, même s'ils sont rendus à l'étape des soins intensifs, là, qui vont peut-être se faire intuber, qui continuent à dire que c'est un complot puis que la COVID n'existe pas. Ils sont à l'hôpital. Ils ont tous les symptômes, mais pour eux, c'est pas convaincant. Et également, le Collège des médecins a rappelé hier qu'à compter du 15 octobre, les médecins non vaccinés n'auront plus le droit d'exercer. Le président du Collège est avec nous, le docteur Maurice Godreau. Docteur Godreau, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, il y en a combien, d'après vous, là, de médecins qui ne sont pas vaccinés?
On ne le sait pas. C'est le gouvernement qui va nous fournir le nombre de médecins, le pourcentage de médecins, le nombre de médecins qui ne sont pas vaccinés. On nous dit, les informations que nous avons, c'est à l'effet qu'il y a autour de 2,5 ou 3 % peut-être des médecins qui ne sont pas vaccinés.
Il y a des auditeurs
mais
qui...
Mais on ne sait pas plus que okay. ça. Puis, les médecins qui ne sont pas vaccinés, ben peut-être qu'il y en a là-dedans qui a des contre-indications au vaccin aussi. Donc, le décret que le gouvernement a adopté vendredi dernier va nous imposer de sanctionner les médecins qui ne le sont pas, mais c'est pas à nous de courir après ces statistiques-là. Eux vont nous fournir les noms parmi la liste des membres qu'on va leur fournir, les noms des médecins qui ne sont pas vaccinés au moment où on se parle.
Je comprends que pour les gens là, où il y a une contre-indication médicale, c'est une chose, mais les auditeurs me posent la question depuis ce matin en disant, mais pourquoi un médecin refuse de se faire vacciner? Là? Mettons qu'il n'y a pas de contre-indication médicale.
Absolument, et pour nous, c'est une question de principe, puis on a, au cours des dernières semaines, communiqué plusieurs fois à nos membres, pas plus tard qu'il y a deux semaines notamment, alors qu'on leur parlait que la vaccination, c'était comme vous venez de le dire, là, par rapport aux études de l'INSPQ, c'était la manière scientifiquement éprouvée de protéger l'ensemble de la population. Donc, pour nous, ça fait longtemps qu'on dit qu'on est d'accord avec la vaccination obligatoire pour tout le personnel de la santé. Et pour les médecins, ce qu'on leur a dit, c'est un devoir déontologique et une obligation sociale. Donc, je suis quand même content là, que plus de 97 % de la communauté médicale soit vaccinée. Il y en a encore quelques-uns qui ne le sont pas, et on va agir par rapport à ceux qui sont délinquants de ce côté-là.
Mais avouez que c'est dur à comprendre. Avouez que c'est dur à comprendre qu'un médecin refuse de se faire vacciner.
Je veux dire, c'est... D'accord. Oui, je ne sais pas les raisons. Que je ne peux pas trop embarquer avec vous ce matin là-dessus. Là. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Là. C'est un devoir déontologique et une obligation sociale. C'est aller loin quand on dit ça en novembre. Là. Par rapport à tout cela. Mais semble-t-il qu'il y en a peut-être un petit pourcentage qui ne semble pas de cet avis.
OK. Est-ce que je comprends qu'un médecin donc non vacciné ne pourra pas non plus voir des patients à distance, là, la télémédecine? Ça veut dire aucune activité. Vous allez le suspendre puis il ne pourra rien faire, là.
Oui, on va suspendre son droit d'exercer. Il ne pourra pas rien faire. Il ne pourra pas faire de téléconsultation non plus. Ça, c'est pas nous qui avons décidé ça, c'est le décret qui l'impose. Par rapport à l'impose au président que je suis, là, par rapport à un membre comme ça, vraiment de suspendre son droit d'exercice de toute façon, de tout type d'exercice, y compris les téléconsultations, en effet.
Comprenez-vous pourquoi?
Ben, il y en a qui font uniquement de la téléconsultation. Si là-dedans, il y a des médecins qui ne sont pas vaccinés et qui font uniquement de la téléconsultation, eux autres aussi vont être suspendus. Donc, le médecin qui, lui, pratique, qui voit des patients, ne pourrait pas faire de la téléconsultation. Donc, Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont pas vaccinés. C'est la façon de protéger la population. Moi, je suis d'accord pour ne pas leur permettre de faire de la téléconsultation non plus. Allez vous faire vacciner, puis on va vous redonner vos privilèges d'exercer.
Mais en même temps, ils sont pas en contact avec des patients s'ils sont à distance non. Comme ça?
Je suis d'accord avec vous, mais ils peuvent le faire quand même. Ils peuvent, à un moment donné, faire une pratique là, dans laquelle il y aurait un contact avec les patients. Donc, je pense qu'ils ne sont pas vaccinés, donc pas le droit d'exercer. Là-dessus, je suis assez ferme et d'accord avec le décret.
OK. Merci, Dr. Godreau.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir. Dr. Maurice Godreau est président du Collège des médecins. Mais c'est vrai qu'il y a bien des auditeurs qui me disent, ouais, mais un médecin qui ne se fait pas vacciner, il y a une formation en médecine quand même assez étonnant. Je comprends que c'est un faible pourcentage. Puis il y en a qui ont peut-être des raisons là, médicales, mais c'est, disons, étonnant.
L'essentiel de Paul Arcan.
Bon, il est 8h20. Ray, bonjour.
Paul, salut Alain.
Salut Ray.
On a quand même des bons sujets de discussion avec Ray, mais d'abord, il faut parler de Guy Lafleur qui a reçu un hommage hier à Gatineau, c'est-à-dire que la Ligue de hockey junior majeur du Québec, tous les clubs vont retirer le célèbre numéro 4 des Remparts de Québec.
Oui, je vais vous présenter deux extraits. Ça a été extrêmement émouvant comme soirée. Guy Lafleur qui s'est adressé aux gens dans un discours après qu'on ait retiré son chandail numéro 4. Je vais vous faire entendre le premier extrait où Lafleur a abordé là le combat qu'il mène actuellement contre le cancer.
Souvent, on dit la vie, c'est un combat, puis c'est vrai. On se bat constamment. On a des années qui sont plus faciles que d'autres. Mais ces années-là, à un moment donné, nous rattrapent. Puis, il faut continuer à se battre.
L'autre extrait que je vais faire entendre, c'est que là, il va amorcer un traitement assez sévère pour tenter de combattre, de faire disparaître ce cancer. Il l'a dit lui-même, là, ça va être extrêmement dur comme traitement. C'est un traitement expérimental. Mais Lafleur a dit hier qu'il faisait entièrement confiance à la médecine.
La technologie, tout ce qui concerne les niveaux médicaux, traitements, ça s'améliore de jour en jour. Il y a des gens qui passent à travers, d'autres sont moins chanceux, mais ça, c'est la loi de la jungle. La vie est faite comme ça, on ne peut pas rien faire, on ne peut pas rien changer. Ce qui est important, c'est de garder en avant, puis d'espérer, puis de faire confiance en toute l'équipe qui peut exister à travers le monde de recherche concernant différentes maladies, cancers, quoi que ce soit.
Alors, on peut nettement percevoir là, l'émotion dans la voix de Lafleur quand il s'adresse aux gens hier soir. Là.
Je pense que c'est le genre de personne qui veut avoir leur juste comme patient. Là,
et qui donne leur juste aussi.
Aussi. Et c'est sûr que c'est un corridor qui ne sera pas facile pour lui à parcourir. Là.
Mais non. Et ça va être comme ça là, dans tous les amphithéâtres de la Ligue junior majeure du Québec. On va retirer. Évidemment, à Québec, c'est déjà fait. Là, mais dans tous les amphithéâtres de la Ligue, on va retirer le chandail numéro 4 qu'il a porté avec les Remparts.
OK. Ray, d'abord, on va parler de football. Un événement attendu, c'est le retour de Tom Brady.
Oui, ben Paul, tu me permets juste pour Guy Lafleur, deux secondes.
Bien sûr.
Je veux juste souligner le fait que Guy Lafleur, c'est quelqu'un qui est évidemment moins connu pour la jeune génération de consommateurs de hockey puis des Canadiens. Évidemment, c'est des McDavid, des Crosby, des Ovechkin. Mais tu le sais, Alain le sait, je le sais. Là. Guy Lafleur a marqué une génération comme rares sont les athlètes qui l'ont fait. À un moment donné où il n'y avait pas de médias sociaux, il n'y avait pas autant de technologie pour faire diffuser tout ça. Puis Guy Lafleur, c'est un héros d'un peuple qui, en tout cas, il a toujours fait lever les gens de leur siège. Comme rares sont les athlètes, même aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a accès à tout le monde, mais à l'époque, on n'avait pas accès aux grands joueurs de tous les sports. Lafleur a inspiré encore, puis nous inspire encore aujourd'hui. Fait qu'on prie pour lui, puis on pense qu'on va être derrière lui, mais sa vie a été flamboyante à tous les niveaux, puis c'est quelqu'un qui a marqué une génération comme la nôtre.
Et je dirais, il y a eu ce trio chez le Canadien, Harry, t'es bien placé pour le savoir, là. T'sais, Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur. T'sais, ça a été le trio là, qui a vraiment incarné l'histoire du Canadien. Là.
Absolument. Puis Lafleur, c'était quelqu'un, on savait qu'on pouvait compter sur lui pour marquer un but, gagner un match, puis gagner la Coupe Stanley. Non, mais ça, c'est comme gigantesque comme pression. Il livrait tout le temps. Puis c'est un homme de grande qualité, puis c'est vraiment dur ce qu'on voit devant nos yeux. Mais il a quand même eu une vie tellement remplie de grands exploits, puis les gens l'adorent. Yeah, fait que, moi, de parler d'une légende à une autre, là, Tom Brady, c'était le sujet de ce matin.
Mais juste pour conclure sur Lafleur, moi j'ai un souvenir parce que quand j'avais fait l'émission de télé avec lui, puis c'est long ces émissions là, ouais. Bon. Puis il me racontait ses déboires avec le Canadien, il trouvait qu'il était sous-payé, qu'il avait été exploité, il trouvait aussi qu'on l'écoutait pas, puis il trouvait que les joueurs. Mais j'ai dit pourquoi vous acceptez encore, tu sais malgré ça là, pourquoi vous acceptez encore de jouer le rôle d'ambassadeur, de porter encore les couleurs du Canadien, puis de puis il dit c'est plus fort que moi.
Ouais.
C'est j'ai beau avoir tous les litiges possibles, avoir eu tous les litiges, mais il dit je suis un joueur des Canadiens. J'ai joué à New York, j'ai joué pour les Nordiques, mais je suis Guy Lafleur. Puis c'est moi je joue pour le Canadien. Puis tu comprends cette espèce de CH tatoué là.
Absolument. Ben, écoute, hier dans son discours là, il a dit quand tu commences à jouer, tu penses pas que ton chandail va être retiré un jour. Tu penses pas aux honneurs individuels. Il dit, parce que le hockey, c'est un sport d'équipe. Alors, il dit, moi, là, quand tu gagnes la Coupe Stanley, si c'était juste de moi, c'est tous les joueurs qui auraient leur chandail retiré parce que t'as gagné ça en équipe. J'ai pas gagné ça tout seul, moi, c'est genre.
Ouais. Mais Lafleur, c'était quand même, Alain, là. Je me souviens de l'avoir vu jouer junior avec les Remparts. Ouais. Il avait marqué 130 buts.
Ah, non, c'était, écoute, c'était phénoménal.
Non, mais c'est comme, il se promenait de ville en ville au Québec. J'étais à Trois-Rivières, puis c'était le vieux Colisée, puis il y avait de la fumée d'un gradin, puis on voyait rien, mais puis Lafleur passait comme une tornade sur la glace. Il en rentrait 5-6 dans un match, passait au match suivant le lendemain. Les gens se déplaçaient partout au Québec pour le voir. Non, mais c'est légendaire, les histoires de Guy Lafleur, de Turceau.
Il est dans l'œil du public depuis que 12-13 ans. Ça a commencé au tournoi Pee Wee de Québec, là.
Puis même s'il n'était pas ambassadeur, Paul, officiellement, il l'était, il a toujours été.
Ben oui.
De toute façon, tu peux pas enlever le CH du visage de Guy Lafleur.
Bon, l'autre légende, Tom Brady.
Ouais, ben Tom Brady, ben, il y a deux choses. D'abord, il fait son retour à Foxborough, à Boston, au domicile des Patriots dimanche soir.
OK, j'ai une question pour toi, Ray, parce que on dit aujourd'hui que c'est le plus grand événement, le plus grand match de sport de saison régulière de l'histoire de Boston.
Oui, oui. Et ça inclut des gros matchs des Red Sox.
Ben oui, des courses au championnat, des affaires de même, là.
Exact. Alors, ça, là, il y a quelque chose. Les billets vont se vendre à des prix de fou. Tom Brady, c'est le roi. Il a joué 20 ans pour les Patriots. 6 Super Bowls. Il a joué une année l'an dernier avec les Buccaneers, un autre Super Bowl. Il a 44 ans, ça fait 22 ans qu'il est dans la NFL. Ce sont des chiffres qui ne tiennent pas la route. C'est impossible de penser comme ça. Je vous rappelle là qu'en 1995, il jouait à l'Université du Michigan. Il a été repêché comme receveur au baseball par les Expos de Montréal. Je rappelle aux gens ça. Avant d'être repêché par les Patriots au 199e rang. Fait que ça, là, quand on pense qu'on n'a plus d'espoir puis on abandonne tout parce qu'on n'est plus un joueur parmi les premiers, là. Il est sorti 199e, il est devenu le plus grand joueur de l'histoire du football. Fait que cette semaine, il a lancé sa nouvelle marque, un autre produit. Brady, ce qu'il fait de bien, c'est que malgré la fin de sa carrière, je sais pas s'il va jouer jusqu'à 50 ans, là, mais il continue de rester impliqué, d'avoir des projets. Il y a une compagnie qui s'appelle 199 Productions qui fait des documentaires sportifs sur de multiples plateformes. Il y a des produits qui s'appellent TB12, sur l'entraînement, l'alimentation, la science du sport, la performance, des produits dérivés des suppléments alimentaires. Puis là, il lance une gamme de produits de vêtements avec des designers qui ont accompagné des gens comme Kim Kardashian, puis qui littéralement vont se vendre chez Nordstrom aux États-Unis, un genre de suivi des produits de Air Jordan pour répliquer un peu ce que Michael Jordan a fait avec grand succès depuis 25 ans. Alors, Brady continue. Puis le timing est bon. Évidemment, il savait qu'il s'en venait jouer à Boston en fin de semaine. Fait qu'il lance cette ligne de produits-là. Il continue d'aller chercher encore beaucoup de gloire puis d'accolades. Même si sa carrière se termine, il en profite pour diversifier sa prochaine étape de sa vie. C'est merveilleux ce qu'il fait, puis il faut l'admirer pour ça.
Et le contexte de ce match, évidemment, c'est l'histoire aux États-Unis cette semaine, là, dans le monde du sport. Là. Et ça survient au moment où on lance un livre écrit par un journaliste d'ESPN. C'est l'histoire des Patriots là, de 2001 à 2019.
Mm-hmm.
Et là, on cite le propriétaire. Tu sais, ça a été le trio Robert Kraft, Belichick, Tom Brady, mais tu vois que c'est une relation, et tu le sais, Ray, là, tu sais, la façon dont ça s'est terminé.
Tendu.
Là. Quand Tom Brady a annoncé qu'il quittait pour Tampa Bay, ouais. Belichick, il a dit, écoute, j'ai pas le temps de te voir, mais on se parlera au téléphone.
Ouais.
Robert Kraft, dans le livre, dit que Belichick...
Le propriétaire.
Oui, propriétaire, il dit, c'est le plus grand, en parlant de Belichick, c'est le plus grand trou du, vous savez la suite, là, ouais. Que j'ai connu dans ma vie. Je lui ai donné la chance de devenir qui il est aujourd'hui. M'a dire là les couteaux sortent là. C'est
vrai. Puis Brady a quand même eu le dernier mot parce qu'il est allé à Tampa Bay puis d'un seul coup gagne le Super Bowl, ouais. Avec une équipe médiocre. Il les a emmenés au Super Bowl. Alors, Belichick paraît mal. Robert Kraft a eu ses propres problèmes. Mais à la fin, je pense que ça va tout se réconcilier. C'est normal que ça tire un peu à la fin parce qu'ils ont été tellement bons les trois ensemble. Ce sont des légendes du sport de la NFL, le plus gros sport aux États-Unis. Puis Brady joue encore. Puis un jour, ils vont tous se réconcilier correctement.
Merci. Bonne journée.
L'essentiel de Paul Arcand.
C'est 23.